Bon, si vous voulez.
On va peut-être continuer.
Voilà, on continue. D'autant plus que j'ai pas encore, je ne suis pas encore arrivé au cœur de mon sujet, celui que j'avais annoncé. Et donc j'aimerais, c'est le paragraphe 3, m'attarder sur la figure de Zulkarnain, qui n'est pas un prophète au sens propre du terme, il n'est pas désigné comme tel, et en plus il est cité une seule fois dans le Coran, et dans un passage assez court, une dizaine de versets, de la sourate El-Kahf, la caverne, mais il est, à mon avis, cette figure est très intéressante, car elle est, à la différence de toutes les figures que j'ai citées jusqu'à présent, et qui appartiennent à la tradition biblique, la figure de Zulkarnain n'est pas du tout biblique. Elle nous invite à faire établir un rapport avec la tradition grecque, gréco-romaine, si vous voulez, qui est proprement, qui nous parle davantage, puisque on est là au cœur même de la tradition occidentale, et que par conséquent, cette figure de Zulkarnain peut nous permettra, je pense, d'établir cette articulation plus que jamais nécessaire entre l'islam et l'Occident. Alors, Zulkarnain, c'est donc dans la sourate de la caverne, El-Kahf, vers la fin de la sourate, entre les versets 83 et 98, il n'y en a pas beaucoup, il y a une quinzaine de versets. Et la sourate de la caverne, vous le savez, c'est une sourate qui est située au cœur même du Coran, c'est-à-dire qu'elle est, d'un point de vue spatial, au point de vue de la composition, de la structure même du livre, elle est absolument au milieu. C'est-à-dire qu'il suffit que vous preniez un exemplaire du Coran, vous l'ouvrez au milieu, et vous avez la sourate 18, qui est la sourate de la caverne. Et donc, si vous voulez, c'est une place qui est stratégique, si vous voulez. Tout est fait pour que le croyant, qui fait du Coran une lecture quotidienne, soit amené à, plus souvent qu'à son tour, en quelque sorte, à tomber sur cette sourate. Outre le fait qu'il y a un usage liturgique, entre guillemets, de la sourate, puisqu'on la lit systématiquement dans les mosquées la veille du vendredi, le jeudi soir ou le vendredi matin, elle fait l'objet d'une lecture collective. Et au point que Louis Massignon, l'orientaliste français, qui a beaucoup fait pour le dialogue, si vous voulez, islamo-chrétien, et qui a écrit un article, plusieurs articles même, très très savants et très très intéressants, très suggestifs, sur la sourate de la caverne. Il s'intéresse davantage d'ailleurs aux jeunes gens, aux sept jeunes gens plutôt qu'à Zulkarnain. Il appelait cette sourate, il disait, c'est l'apocalypse de l'islam. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? J'y reviendrai tout à l'heure en conclusion. Alors, Zulkarnain, donc la sourate commence par, ça s'appelle la caverne, parce qu'il est tout de suite question de ces sept jeunes gens, enfin le nombre même fait l'objet d'une interrogation, est-ce qu'ils étaient quatre, le cinquième étant leur chien? Est-ce qu'ils étaient cinq, le sixième étant leur chien? Est-ce qu'ils étaient sept, le huitième étant leur chien? Mais le chien, il l'a toujours. Et des jeunes gens qui, autour de l'an 300, c'est-à-dire à l'époque de Dioclétien, les grandes persécutions antichrétiennes, ont été suppliciés, enfin, emmurés, vivants, dans une caverne, parce qu'ils avaient proclamé leur foi. Donc c'est des martyrs, si vous voulez. Mais au lieu de les jeter, de les égorger, ou de les jeter aux bêtes, comme enfin, on les a emmurés vivants dans une caverne. Et ils sont restés, le Seigneur les a protégés, parce que quand ils sont entrés dans la caverne, ils ont dit haut et fort qu'ils avaient confiance. C'est un peu comme dans le livre de Daniel, hein, les trois jeunes gens dans la fournaise, et qui disent haut et fort, leur croyance, leur foi, et qui passent indemnes à travers le feu. Donc ils continuent à vivre, sauf c'est une vie, ils sont en fait endormis, on les appelle les sept dormants, et ils se réveillent 300 ans plus tard. Le Coran dit 300 ou 309, puisque les années hijriennes, comme vous savez, sont plus courtes que les années solaires. 300 ans plus tard, ils se réveillent, et donc on est en l'an 600, et c'est l'époque de Justinien, et donc c'est le christianisme est établi comme religion d'État. Ça, c'est l'histoire donc des sept dormants qui apparaît dans le Coran, mais qui apparaît aussi dans un grand nombre de traditions, un peu dans le monde entier, mais notamment dans le monde catholique, et notamment un pèlerinage en Bretagne, à Vieux-Marché, qui est un petit village à côté de Tréguier. C'est intéressant parce que Tréguier, c'est la ville de Renan, qui était un grand libre penseur, n'est-ce pas, et à côté de Tréguier, il y a cette petite ville de Vieux-Marché dans laquelle se tient toujours, aujourd'hui c'est peut-être moins, mais se tient toujours un pèlerinage chaque année pendant l'été, le 25 juillet, et autour d'une chapelle qui s'appelle précisément, qui est consacrée aux sept dormants d'Éphèse. Une chapelle d'ailleurs qui est construite comme une sorte de dolmen avec des plaques de pierre, enfin des pierres qui sont des dolmens, et qui construisent la chapelle. C'est quelque chose tout à fait. Il y a une fontaine au milieu du village, c'est tout à fait impressionnant. Et ce pèlerinage existe depuis très longtemps. Et Louis Massignon a eu connaissance de ce pèlerinage et il a participé pour la première fois en 1954. L'été 54, où il était déjà assez âgé, plein d'un grand prestige, professeur au Collège de France, etc. Et il était de plus en plus, toute sa vie est orientée vers ça, et à cette époque, quand il avait dépassé 70 ans, il était hanté par l'idée de la nécessité d'un dialogue entre musulmans et chrétiens. Ce dialogue auquel il avait, d'une certaine façon, consacré toute sa vie d'intellectuel et de croyant, même s'il ne s'est jamais converti à l'islam. Mais il était dans ce qu'il appelait lui-même la fraternité abrahamique. Et donc il a participé à ce... Et il a fait de ce pèlerinage, qui était un événement finalement local, un peu folklorique, il en a fait un événement proprement œcuménique, dans lequel, année après année, étaient invités des musulmans, bien sûr, de toutes les parties du monde musulmans, des catholiques, des chrétiens, des libres penseurs, des gens de partout, d'un peu partout, et qui, l'espace de quelques jours, véritablement communiaient dans cette idée de, qui est une idée chère à Massignon, de méditation sur ce mystère de la communication divine, du rapport entre le divin et l'humanité. Donc ça, c'est la première partie de la sourate de la caverne. Ensuite, vous avez une deuxième partie plus brève, où on évoque, sans transition, de façon un peu mystérieuse, on retrouve la figure de Moïse, qui apparaît ailleurs dans le Coran. Moïse qui est en dialogue mystérieux avec un inconnu qu'il rencontre en voyage, qu'il rencontre et qui est en fait, les commentateurs le disent, c'est Khizr ou El Khader, qui est un prophète, mais un prophète qui n'est ni musulman, ni chrétien, ni juif, mais tout cela à la fois, et qui est dans la tradition soufie qui a une importance importante. El Khader, Khizr, c'est le vert, celui qui est vert, Virens, Semper Virens. Et entre Khizr et Moïse s'établit un dialogue à mesure qu'il chemine, et un dialogue qui est une sorte de réponse à des épreuves successives. C'est-à-dire que Moïse avance et il s'aperçoit que son compagnon se livre à des actes bizarres. Il rencontre un jeune homme, il le tue, il le met à mort. Il rencontre des pêcheurs, des pauvres pêcheurs, etc. Il fait couler le bateau. Il arrive dans une ville et il y a un mur qui va s'écrouler et il répare le mur. Et à chaque fois, Moïse proteste en disant, mais pourquoi tu fais ça? Et Rez s'impatiente, il dit, pourquoi tu t'impatientes? Je t'avais dit, reste tranquille et écoute-moi. Tu es trop impatient. Et finalement, à la fin, il lui révèle le sens de tout ça. Et notamment, s'il a tué le jeune homme, c'est parce qu'il savait que le jeune homme allait plus tard faire souffrir ses parents, qui sont des gens pieux, et qu'il valait mieux qu'ils disparaissent pour que les parents aient un autre fils qui serait un garçon plus obéissant. Et ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve ça, cette histoire un peu absurde, a été reprise par Voltaire dans le conte qui s'appelle Zadig, dans lequel Zadig, c'est Sadik, hein, c'est une histoire orientale, rencontre un derviche. Et c'est le même genre de dialogue, n'est-ce pas? Cette méditation sur l'absurdité apparente des décrets divins. C'est-à-dire que l'homme, quand il commence à réfléchir à l'intervention de Dieu dans l'humanité, se heurte à des paradoxes et à des choses absolument incompréhensibles. Bon, ça c'est... Et enfin, on arrive à la fin de la sourate, sans transition. On dit, et si je vous parlais maintenant, enfin c'est le locuteur du texte coranique, c'est toujours ce dialogue, tu m'interroges, c'est-à-dire le croyant, tu m'interroges maintenant, tu veux savoir des détails à propos de Dzulqarnayn. Ben voilà, je vais te parler quelques mots sur Dzulqarnayn. Et c'est comme ça que c'est. Bon, et c'est très... alors, Dzulqarnayn, littéralement, ça veut dire en arabe celui qui a deux cornes. Dzulqarnayn. Qui a deux cornes. Mais on peut lire toute la tradition, à quelques exceptions près, assimile ce personnage de Dzulqarnayn à Alexandre, Alexandre le Macédonien, le conquérant. Et on peut trouver d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de souvent des jeux de mots dans le Coran, c'est-à-dire que dans les lettres qui composent le mot Alexandros en grec, se retrouvent dans Dzulqarnayn. Il y a un anagramme, si vous voulez, qui est fait, comme on avait vu que Aïssa, Yassoua, etc., et Dzulqarnayn, Alexandros, et ce n'est pas le seul exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais en même temps, Dzulqarnayn, littéralement parlant, ça veut dire celui qui a deux cornes. Et ça peut, si on fait l'effort, comme disait notre ami tout à l'heure, de sortir simplement de la lecture du texte coranique, dont on fait une lecture répétée, un exercice de piété, mais qu'on fasse par curiosité intellectuelle, je ne dis pas par piété, mais par curiosité intellectuelle, qu'on se reporte à d'autres textes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont des textes d'historiens, et notamment ici les historiens antiques. On a des surprises, à savoir qu'on voit que cette même figure qui est évoquée dans le Coran l'est également, et de façon avec beaucoup plus de détails, chez les historiens anciens. Alexandre, ben c'est Plutarque, c'est Arien, c'est Quinte-Curse, et d'autres encore. Et qui disent, quand on lit ces historiens, et notamment la vie d'Alexandre par Plutarque, et qui développent la vie d'Alexandre, qui est un personnage extraordinaire, dont les éléments, de façon très très allusive, apparaissent dans le texte coranique. Par exemple, Alexandre Dzulqarnayn, tout de suite, est indiqué comme un grand voyageur. Il est allé à l'extrême occident du monde et ensuite à l'extrême orient. À l'extrême occident, il a trouvé là une ville dans laquelle se trouvait une sorte de marécage. Autrement dit, une oasis. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'oasis de Siwa, l'ouest de l'Égypte, où Alexandre, effectivement, en 300, au début de sa conquête, hein, il a commencé sa conquête en 333, la bataille d'Issus, ensuite il est descendu, il est arrivé jusqu'en Égypte, il a conquis l'Égypte pratiquement sans coup férir, et il a eu la curiosité d'aller à Siwa, et il a fondé Alexandrie, et à Siwa, c'est à, 300 km d'Alexandrie, en allant vers l'ouest. Encore aujourd'hui, c'est une expédition pour y aller. Donc on imagine à cette époque-là. Il avait des guides, bien sûr. Et à Siwa se trouvait un temple dédiée à Amon, au dieu Amon, Ra, le grand dieu des Égyptiens. Et il a été accueilli, Alexandre arrive dans ce sanctuaire, il est accueilli par le prêtre qui lui dit « Ô Paidios, ô fils de Zeus. » À ce moment-là, Alexandre est tout à fait flatté et il va immédiatement tirer parti de cela pour, vis-à-vis de ses hommes, vis-à-vis de ses compagnons et vis-à-vis de la propagande, de dire voilà, je suis reconnu par les Égyptiens comme le fils d'Amon, le fils de Zeus, puisque Amon, c'est Amon-Ra, c'est Zeus. Et ce faisant, comme l'animal totem, hein, les Égyptiens avaient des animaux totems, dédiés à. Enfin, symbole d'Amon-Ra, c'est le bélier. On retrouve là le bélier d'Abraham, d'ailleurs, hein, le bélier qui est donné en substitut au fils d'Abraham. Il y a tout un symbolisme. Le bélier, et vous le voyez en Égypte, des alignements de Karnak, le bélier est toujours représenté un animal avec des cornes enroulées. Et il prend, à ce moment-là, Alexandre, prend une sorte de masque, revêt une sorte de masque avec les deux cornes de bélier. Et donc on l'appelle à ce moment-là Dhul Karnein, il a deux cornes. Et ensuite il continue son voyage, il va à l'extrême orient, c'est-à-dire en des lieux où, là où les gens, dit-on, ne connaissent même pas ou ne comprennent aucune langue humaine. Bon, et ça fait allusion à il est allé très très loin, non, il est allé jusqu'en Inde. Alexandre d'Israël même allait encore plus loin, enfin jusqu'à l'Inde, effectivement, si ses hommes ne l'avaient pas arrêté en disant c'est fini, on rentre. Et il est rentré. Mais, enfin il est rentré à Suse. Donc le Coran reprend l'essentiel du voyage d'Alexandre, à savoir cette volonté de couvrir, d'explorer le monde dans son intégralité. Extrême Est, Extrême Ouest, et tout ce qu'il y a entre. Il va même plus loin. Plutarque évoque un épisode très intéressant dans la vie d'Alexandre. Arrivé là-bas, du côté, semble-t-il, aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'Afghanistan, il a trouvé une sorte de rivière paradoxale où l'eau s'enflammait. C'est-à-dire qu'une rivière qui coulait, et c'était de l'eau. Quand on jetait un flambeau dans l'eau, l'eau prenait feu, l'eau de feu. Ben, c'est du pétrole, bien sûr. Et plus tard, se fait l'écho de cette stupeur qui saisit les hommes d'Alexandre en voyant cette eau qui prend feu. Et le Coran parle, de façon très très allusive comme toujours, d'un barrage que Alexandre aurait établi pour protéger la population contre Gog et Magog, Jog et Majog, qui étaient des peuplades venues sauvages, et il fait un barrage en mettant en feu justement du bronze, du métal fondu pour faire une sorte de barrage infranchissable. Donc il y a cet usage, si vous voulez, de la métallurgie. Du pétrole, etc., un usage déjà industriel, dont Alexandre était un peu le précurseur, et ensuite qui sera développé dans la Grèce hellénistique. À Alexandrie, justement, vous avez un développement déjà tout à fait considérable de toutes sortes de techniques, qui sont reprises ensuite par les Arabes au XIIe siècle. Et tout ça, c'est dans les historiens antiques, et c'est en même temps dans le Coran, mais dans le Coran, c'est de façon très très allusive. Et donc, vous avez cette expédition d'Alexandre et la mission qui est donnée à Alexandre et qui consiste à pratiquer, à faire une sorte d'union de la civilisation. Alexandre était, il ne faut pas l'oublier, l'élève d'Aristote. Donc il porte avec lui toute une tradition philosophique. Aristote, qui était le disciple de Platon, il porte avec lui toute une tradition philosophique qui va ensuite se développer. Et notamment, va se développer beaucoup plus tard, 10 siècles plus tard, eh bien, à Bagdad. À Bagdad, où vous avez un Beit al-Hikma, toute une école de traducteurs, qui s'attache à traduire les œuvres d'Aristote, qui étaient en grec, qui sont traduites en arabe. Et beaucoup d'autres, et des mathématiciens, et a développé aussi les premières études sur l'optique, et des études également sur les automates, des études de mise en, comment dire, d'études proprement industrielles. Et l'idée politique, celle-là, de l'empire universel, c'est-à-dire l'empire universel rêvé par Alexandre, le fameux discours d'Opée, c'est-à-dire dans lequel il appelle ses compagnons macédoniens à s'unir, au sens propre du terme, à se marier, avec des femmes de Perse, de manière à créer un nouveau peuple. Un nouveau peuple qui sera un peuple uni, qui dépasse les différences de religion, de langue, etc. Une sorte de synthèse, de nouvelle synthèse d'une humanité nouvelle. Or, cette idée-là sera mise en œuvre précisément par le premier empire ou le deuxième empire islamique, qui est l'empire abbasside, en langue arabe. Mais la langue arabe elle-même est, comment dire, dans la langue arabe, il y a beaucoup d'influence grecque. Donc il y a, si vous voulez, cette comme une sorte de, et le Coran le dit, mais comme il dit beaucoup de choses très très mystérieuses de manière allusive et de façon qui n'est pas explicable humainement, parce que de même que le Coran par exemple annonce des éléments de biologie qui étaient absolument inconnus à cette époque-là et qui ne seront découvertes, des découvertes biologiques qui sont découvertes qu'au XXe siècle, découvertes de physique, de mathématiques, etc. Et donc cette idée d'empire universel, etc., qui sera mise en œuvre, notamment à l'époque de Abbaside, c'est-à-dire 5 siècles après l'Égypte, ben, se trouve, en quelque sorte, fait déjà référence, ou se trouve incluse, de manière dans le noyau, en quelque sorte, dans le roman d'Alexandre.
Le temps tourne. Hein,
voilà. Donc je vais terminer, si vous voulez, parce qu'on pourrait effectivement continuer longtemps. J'arrive à la conclusion que cette image, si vous voulez, cette figure de Zulkarnain nous invite à réfléchir, qui est un carrefour entre l'Antiquité, le Moyen-Âge, la religion, la foi, le monde arabe, le monde islamique, l'Occident, tout ça, la perspective scientifique, historique, la perspective de foi, tout cela, cette figure d'Alexandre, de Zulkarnain, synthétise tout ça. Et donc, nous amène, peut nous amener à réfléchir, aujourd'hui même, au début des premières années du XXIe siècle, 20 premières années du XXIe siècle, à la place que l'islam occupe dans son environnement. Environnement à la fois historique, religieux, politique, place qui est très très problématique, surtout aujourd'hui, enfin depuis 2001. Il semble que l'islam, qui jusque-là jouissait d'un accueil, d'une vision plutôt favorable en Occident, toutes ces renversées de façon très très brutale après 2001, et l'islam n'arrive plus à se libérer, à se débarrasser de cette espèce d'image de terrorisme qui véritablement est associé à l'islam et dont il ne peut pas se libérer. Donc l'histoire, je ne vais pas parler de ça maintenant, ce n'est pas notre sujet, mais je veux dire par là que le rapport, il y a trois façons de l'islam, et je termine par ça, par lesquelles il peut, trois modalités par lesquelles il peut se dialoguer avec, je parle avec l'Occident, puisqu'on est en Occident. Soit par l'assimilation, c'est-à-dire qu'il entre dans la culture occidentale et il vient se fondre dans la culture occidentale et disparaître en quelque sorte par fusion. Un peu comme, d'une certaine manière, on voudrait que le catholicisme disparaisse, et par certains côtés, il disparaît effectivement, il se fond et il devient une sorte de culture qui appartient à la culture occidentale. On pourrait appeler ça l'assimilation. Il y a une deuxième, et ça, les musulmans en général ne sont pas favorables à ça. Il y a ce qu'on appelle le dépassement. C'est-à-dire qu'on a dit, par exemple, du christianisme que c'était la religion de la sortie de la religion. C'est Marcel Gauchet qui dit ça, et Franz Weber aussi. C'est-à-dire que c'est une religion qui, par rapport à l'héritage religieux, traditionnel, se veut comme un dépassement. Et après tout, d'une certaine manière, dans l'Évangile, il y a tout ça. Quand le Christ dit « Est-ce que l'homme est fait pour le Shabbat ou le Shabbat est fait pour l'homme ?» C'est une manière profondément très très radicale de remettre en question la loi mosaïque, etc., qui est accomplie, certes, mais qui est aussi abolie, ou son accomplissement, c'est son abolition. Mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que l'islam est prêt à faire cette même démarche? Je ne pense pas. Ne serait-ce que parce que l'islam est très attaché à la question légale, légaliste. La loi islamique n'est pas quelque chose que l'on peut dépasser. Et enfin, troisième possibilité, l'islam assume tout cet héritage chrétien, judéo-chrétien, païen, historique, grec, philosophique. Il assume les Lumières, l'histoire européenne, les révolutions. Il assume tout ça, il en fait une synthèse, et il assume, on appelle ça l'assomption, et il le porte plus loin. C'est-à-dire qu'il éclaire tout cela à la lumière de la foi. Et cette assomption lui permet effectivement non seulement de survivre, mais même d'être une force, une des forces d'entraînement principales, d'entraînement de l'humanité en ce XXIe siècle. Et parce que, si vous voulez, et ce faisant, non seulement il survit, il garde son existence et son essence, mais d'une certaine manière, il vient sauver l'Occident. Il vient comme une force de secours à l'Occident. Un Occident qui est, on le voit tous les jours, en pleine décomposition, en pleine décadence, en pleine... Pourquoi? Parce que les valeurs fondamentales de l'Occident, on ne va pas les énumérer, on les connaît, sont remises en cause, sont combattues, sont un peu partout, et de toutes sortes de manières. L'islam est porteur de ces valeurs, et notamment la valeur centrale qui est celle de ce rapport à la transcendance. Cette idée que le rapport de l'homme aux autres hommes passe nécessairement, de manière triangulaire, par un rapport à la transcendance. Et que si la transcendance disparaît, tout s'effondre. Et que les rapports horizontaux des hommes ne peuvent être que des rapports de guerre et de violence. S'il n'y a pas ce triangle, cette transcendance qui est là, et le code de cette communication de la transcendance avec l'homme, c'est la foi. La foi qui donne le code. Et ça, c'est une idée profondément islamique, et c'est une idée occidentale, que déjà Dhulqarnayn défendait, et qui pourrait, et c'est là que se trouverait peut-être le secret d'une réconciliation entre l'islam et l'Occident.
Voilà, ben merci à tous. Et à bientôt, donc soit pour la marche, la rando. Pour la rando, il faudra s'inscrire et attendre la veille pour voir si la météo est clémente. Voilà.